voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1983. Alors de quoi va-t-on parler ? Du commandant Cousteau, qui a une nouvelle lubie ? De l'écologie qui peine à se faire une place en France ? Du prix Nobel de la paix qui est attribué à un cueilleur de champignons ? De l'enlèvement du PDG milliardaire d'Heineken ? Et à un peu de Tino Rossi.
1983, on de la raconte sur Europe 1.
Le 9 juin 1983, le célèbre explorateur au bonnet rouge, le commandant Cousteau, convoque la presse française à Marignane, au bord de l'étang de Berre. Et il présente sa toute nouvelle invention, un voilier sans voile. Ah, j'ai la photo sous les yeux, hein. Ça ne ressemble pas du tout à un voilier. C'est un énorme cylindre de 13 mètres de haut, posé sur un bateau. On dirait un tuyau de poêle flottant. C'est assez moche. Pour Europe 1, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui va s'extasier devant cette invention qui est baptisée Moulin à vent.
Toute l'équipe qui l'a mise au point est ici, elle est française. C'est en effet la première sortie de Moulin à vent qui avance bien sous un soleil de plomb et grâce à un léger vent. Un vent à peine perceptible pour le moment qui fait à peine progresser Moulin à vent dont vous verrez à partir de demain, me semble-t-il, la photo dans toute la presse. Le commandant Cousteau le présente à ses invités et en exclusivité pour Découverte d'Europe 1. Et il y a un certain nombre de vedettes du port autonome de Marseille qui nous accompagnent ou qui nous suivent, qui tournent autour de nous. J'ai envie de poser une question. Comment vous le trouvez, alors, vu de là où vous êtes, à quelques mètres? Nous sommes à bord, c'est plus difficile.
Écoutez, il est assez inélégant, je trouve, quand même. Hein. C'est un bateau tout blanc. Alors, on dirait une usine sur l'eau, une espèce d'unijambiste avec cette grande cheminée blanche. Et bon, c'est ça qui frappe, hein. On se demande un peu à quoi ça sert, on voit ça tourner comme une espèce de moulin à vent. Ça surprend, hein. Ça surprend incontestablement, hein. On n'a jamais vu ça.
Et en plus ça marche.
Le bébé pèse tout de même 42 tonnes pour 22 mètres de long et 7 mètres de large. Pour le commandant Cousteau, c'est une révolution.
Sous le soleil du midi, sur les quais de l'étang de Berre, Jean-Pierre.
Oui, et quel soleil. Bien pour moi, de voir naviguer tout près de nous, sur l'étang de Berre, le moulin à vent, c'est à la fois un événement et un plaisir. Et tout à l'heure, commandant Cousteau, vous disiez, c'est une révolution. Pourtant, en 1926, si j'ai bien lu votre bouquin qui s'appelle l'Almanach, enfin, ou l'Almanach de la Fondation Cousteau, le Baden-Baden, c'était un bateau de l'allemand Flettner, avait déjà traversé l'Atlantique avec... un peu le même principe.
Ah, pas du tout.
Ah, oui, non, mais pourquoi on a abandonné déjà des expériences qui avaient fonctionné un peu de cette nature, cette façon?
Mais c'est pas du tout de cette façon. C'est avec des cylindres qui tournaient à 400 km à l'air. Si vous voulez avoir un bateau avec un machin comme ça dessus, moi pas. Vous imaginez les cordages qui se prennent là-dedans. En bas, il y a une plaque qui doit tourner aussi à la périphérie à 400 km à l'air. C'est une machine à couper le jambon. Hein, pour découper les marins en rondelles, il n'y a pas mieux. C'est l'effet, attendez, de Noah, quand il coupe une balle de tennis. Hein, il la fait tourner. Et alors quand elle tourne, elle fait l'effet Magnus et elle se dévie de sa trajectoire. Hein, ça me fait penser à ce que j'ai appris quand j'étais artilleur. Hein, la dérive, c'est la force qui fait sortir le projectile de sa trajectoire pour le faire tomber à côté de son point de chute. Hein, ben, c'est la même chose. L'effet Magnus, ça consiste à dévier les filets d'air par frottement en faisant tourner le cylindre ou la balle de tennis. Bon. Ben moi, j'en veux pas de ce système-là sur mon bateau. En conséquence, ce que j'ai demandé au professeur Malabar, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver un système pour obtenir un rendement aussi élevé ou à peu près aussi élevé que le cylindre tournant sans qu'il tourne? Et le miracle, c'est que notre cylindre ne tourne pas.
Après plus de 3 mois d'essai, le 12 octobre 1983, le commandant Cousteau prend place à bord de son bateau sans voile et sans moteur, avec 5 hommes d'équipage. Ils ont en stock 40 jours de vivres, direction New York. Et chaque jour à 16h, le commandant tient un journal de bord sur l'antenne d'Europe 1.
Les vents qui avaient soufflé hier se sont arrêtés pendant la nuit et on se traîne lamentablement. Alors vous comprenez, quand les vents soufflaient bien hier matin, on a, pour fêter ça, ouvert 2 bouteilles de moulin à vent pour le déjeuner. Et le soir, comme les vents s'étaient arrêtés et que c'était la déprime, on a servi le champagne. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Des dauphins sont venus jouer devant l'étrave. Le ciel au lever du jour des couleurs d'ardoise, et puis ensuite il se transforme en apothéose d'or et de rose. Puis on voit naître le jour tous les matins, c'est fantastique.
Après un mois de traversée, le commandant et son équipage affrontent leur première tempête.
La nuit passée a été littéralement infernale. Je me rappellerai toujours le quart que j'ai fait de 11h du soir à 2h du matin, qui a été le moment le plus dur de ma vie. Nous avons à plusieurs reprises embarqué, à trois reprises exactement, d'énormes lames déferlantes ont littéralement couvert l'arrière du bateau. Une des trois fois, j'étais à l'extérieur en train d'essayer d'arrimer un bidonville qui fichait le camp d'un côté à l'autre, et j'étais pris par la masse d'eau qui déferlait sur l'arrière du bateau, et j'ai été littéralement projeté de tribord à bâbord, et j'ai failli passer par-dessus bord. Alors ça a été vraiment, pour moi, un moment extrêmement dramatique.
Alors que la traversée est presque achevée, sous un vent à plus de 50 nœuds, les soudures qui maintiennent Moulin à vent cèdent. Mais le commandant Cousteau et son équipage arrivent finalement indemnes à New York, un périple de 38 jours. Et dès son retour à Paris, Cousteau retrouve Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1.
Pour la première apparition publique de Cousteau, voici Jacques-Yves Cousteau, que je suis particulièrement heureux d'accueillir en public, en direct aujourd'hui, avec tous les auditeurs et les amis d'Europe 1. Venez nous rejoindre. Je peux dire, commandant Cousteau, que les applaudissements, vous les méritez, tous nos applaudissements. Alors, commandant Cousteau, en pleine tempête, vous nous avez confié à Alexandre Lichamp, Sidney Bitoun, à l'équipe de découverte d'Europe 1, vous ne croyez tout de même pas que je vais renoncer. Alors, est-ce que c'est vrai? Vous voulez recommencer?
Ah ben, ça ne se pose même pas la question, c'est évident. C'est évident parce que ça n'était pas un échec technique. Si ça avait été un échec technique, j'aurais dit, bon, ce truc-là n'est pas bon, je renonce. Mais j'ai eu de telles satisfactions avec le système de propulsion qu'il est essentiel de convaincre même les gens les plus sceptiques.
Pour vous, ce qui s'est passé ne remet pas en cause les voyages que vous imaginiez, et c'est possible avec le système que vous aviez mis au point avec le professeur Malavar, qui est avec nous aussi.
Écoutez, j'y croyais en partant, mais j'y crois encore plus. Parce que les derniers jours en particulier, où il y avait mer forte et grand vent, on démontrait ce qu'on pouvait tirer de ce propulseur, on savait mieux s'en servir, et c'est absolument extraordinaire.
Le commandant voudrait équiper son nouveau bateau, Calypso 2, avec ce système. Mais ça a un coût, 300 millions de francs, ce qui fait que ce bateau ne verra jamais le jour.
Et même si le temps presse,
c'était bien sûr Jean-Jacques Goldman avec son tube « Au bout de mes rêves ».
1983, on de la traconte sur Europe 1.
Le 3 janvier 1983, des militants écologistes de Cherbourg investissent une grue géante sur le port. Ils protestent contre le transport de matières radioactives du Japon vers l'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague.
Cinq petites lumières blanches balayées par les violentes rafales de pluie et de vent, un vent qui a soufflé en tempête toute la nuit, c'est tout ce que l'on peut apercevoir pour l'instant de la grue occupée depuis maintenant 12 heures par les écologistes de Cherbourg. Une occupation qui s'est faite par surprise, vous le savez, 40 écologistes débordant sans aucune difficulté l'unique gardien et son chien et permettant à trois d'entre eux de grimper dans la grue placée à l'extrémité du quai de France et de s'installer dans la cabine de commande. Une tente, des sacs de couchage, un réchaud à gaz, des vivres ont ensuite été hissés dans leur perchoir pour leur permettre de tenir 15 jours s'il le faut.
L'opération commando des écologistes attire les médias, d'autant plus que la deuxième nuit d'occupation, ça chauffe.
Dans leurs revendications qu'ils ont fait connaître cette nuit, ils exigent la diffusion à la télévision d'un film réalisé par la CFDT et consacré à La Hague. Ils demandent le retour au Japon du cargo et l'interdiction de la circulation des déchets retraités dans l'agglomération de Cherbourg. Ils exigent enfin l'abrogation de l'arrêté d'interdiction de circulation dans les eaux territoriales des navires de Greenpeace. Or, l'un d'eux, le Sirius, était en route cette nuit pour Cherbourg. Mais à Fécamp, où il faisait escale pour embarquer des journalistes, les choses se sont gâtées. Les gendarmes ont tout d'abord interpellé sur le quai l'un des responsables anglais de Greenpeace. Il a été conduit à la brigade, où il devait passer toute la nuit pour vérification d'identité. Quant à la capitainerie, elle appliquait la législation à la lettre en demandant que le Sirius prenne un pilote pour pouvoir entrer dans le port. Une situation tendue de part et d'autre pour ce combat que les écologistes mènent depuis 1979, c'est-à-dire depuis l'arrivée des premiers déchets nucléaires à La Hague.
Les CRS délogent l'un des squatteurs de la grue, mais il en reste toujours deux là-haut.
Les deux écolos se sont réfugiés sur la plateforme supérieure, à 45 mètres du sol, où leur séjour, déjà peu confortable, va vraiment devenir précaire. Les services portuaires en ont profité pour déplacer la grue et l'isoler définitivement. Ils ont ainsi pu récupérer l'usage de la seconde rue et du quai de France, qui est en train d'être dégagée, peut-être pour une arrivée prochaine du Pacific Crane et de ses déchets nucléaires, mais aucune date n'a encore été annoncée. Cherbourg, Pierre-Henri Marin, Europe 1.
Quelques heures plus tard, plus aucun militant sur la grue. Le Pacific Crane peut enfin accoster à Cherbourg et décharger 8 châteaux de combustible irradié destinés à être retraités à La Hague. L'opération des militants a échoué, mais sur le plan médiatique, elle a un mérite. Faire connaître la cause écologiste qui n'en est qu'à ses balbutiements. Écoutez ce que les Français répondent en 1983 à Limoges quand on leur demande ce qu'ils pensent de l'écologie.
Non, j'en ai rien à foutre.
L'écologie, c'est très bien, monsieur, c'est très très bien l'écologie, pourquoi pas?
Rien du tout.
L'écologie, c'est oui. Une très bonne chose, mais dans une période moderne, on est quelquefois obligé de faire des sacrifices.
Les gens ont enfin pris conscience que la nature était très menacée. Et c'est bien qu'on la protège maintenant.
Bah c'est bien, mais c'est pas assez actif en fin de compte. Hein. Ça parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'actions vraiment concrètes.
Qu'est-ce que je vous dise?
Moi, je suis étranger, moi, je ne m'occupe pas de la politique en France.
Je rien. Je ne connais pas, moi, la compte.
Vous savez pas ce que c'est que l'écologie?
Non.
De toute façon, je ne fais pas de politique.
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement des mouvements écologistes?
Concrètement, alors là.
À Limoges, on ne sait pas trop quoi attendre de l'écologie. Et à Lyon, même topo. L'écologie, ça représente quoi pour vous?
Rien tout court.
C'est pas les gens qui veulent pas qu'on empoisonne l'air et tout?
C'est très beau l'écologie, bien sûr. C'est la campagne, la verdure, les arbres, enfin, tout un tas de choses, quoi, oui.
Et ça vous paraît crédible, l'écologie?
Ah, bien sûr.
Oui, pourquoi?
Bah, je trouve qu'il faut protéger quand même notre environnement.
Bon, enfin, c'est un peu une utopie, parce que on peut pas être écologiste à fond, je pense.
Pourquoi?
Un régime écologiste risque de faire basculer l'économie, et un peuple économiquement faible ne peut pas, assurer sa défense.
Europe 1.
Après la pub, direction la Pologne, où comment un cueilleur de champignons devient prix Nobel de la paix.
ça bouge avec la promotion boutique de Coca-Cola. Oui, de fabuleux objets. Un pendentif capsule pour égayer vos t-shirts. Une ceinture super aux couleurs de Coca-Cola. Allez vite les découvrir sur tous les emballages promotionnels de Coca-Cola.
Coca-Cola, c'est ça !
Oui, 12 objets signés Coca-Cola. C'est simple. Plus vous collectionnez les points sous les capsules des bouteilles de Coca-Cola, plus vous obtiendrez d'objets de la boutique de Coca-Cola.
Toujours bon, toujours prêt.
1983, Ondelat raconte sur Europe 1.
Le 5 octobre 1983, le syndicaliste polonais Lech Wałęsa, président fondateur du mouvement Solidarnosc, figure emblématique d'une Pologne qui s'affranchit du joug de l'URSS, décroche le prix Nobel de la paix. Et à Moscou, je peux vous dire qu'on tire la gueule.
C'est une provocation. Vu de Moscou, en effet, Lech Wałęsa est un bout de feu. Il n'a pas servi la paix, mais seulement les intérêts de la propagande occidentale.
Wałęsa est prix Nobel, et tout le monde attend sa réaction. Mais personne n'a pu encore le joindre, et pour cause. Il a autre chose à faire.
Jusqu'à maintenant, les bulletins de radio n'ont pas état du tout de l'attribution du prix Nobel de la paix à Lech Wałęsa.
Et est-ce qu'on sait si Wałęsa a déjà fait un commentaire ?
Eh bien, lui-même n'en a pas fait, pour une bonne raison, c'est qu'il est parti ce matin à la cueillette des champignons, et sa femme interrogée a fait cette révélation, et a dit qu'elle-même était évidemment très émue et très heureuse de cette nouvelle, et qu'elle attendait le retour de son mari, avec ou sans champignons, pour pouvoir lui annoncer cette nouvelle.
Chérie, tu es prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. J'ai ramené de quoi faire bonne poêlée. Le persil, aïe, on va se régaler. Tu es prix Nobel de la paix, chérie. Ils viennent de l'annoncer, c'est officiel. Oh, ben ça alors. Bon, on fait quand même des champignons hein, ce soir, non? Des journalistes étrangers finissent par l'interroger, devant chez lui. Et là, on assiste à une scène stupéfiante. C'est-à-dire que Lech Wałęsa donne sa première interview de prix Nobel en boulotant une pomme.
C'est trop énorme pour être vrai. C'est possible, si, si. Moi, je le crois et je t'embrasse. Mais je n'y crois pas encore. Je vous jure solennellement, sur tout ce qui est de plus sain, je viens de l'entendre comme dernière nouvelle, que vous avez eu le prix Nobel de la paix. Le dirigeant de Solidarité en Pologne, je le jure sur Dieu, sur la vie, je vous en prie. Bien sûr, ce serait formidable. Mais vraiment, je n'y crois toujours pas.
Dans la rue, après avoir vérifié le bien fondé de cette nouvelle grâce aux radios occidentales, les Polonais exultent.
La télévision polonaise n'a annoncé qu'à 17h l'attribution du prix Nobel à M. Wałęsa, mais heureusement, le téléphone arabe fonctionne bien à Varsovie. Dès le matin, la population a donc accueilli avec une joie immense la nouvelle. Autour de la croix de fleurs en hommage au cardinal Wyszyński, près de l'église Sainte-Anne par exemple, les gens se rassemblaient, chantaient et se congratulaient mutuellement. Quant à M. Wałęsa lui-même, il aurait été sans doute un des derniers à apprendre l'information. Il était tout simplement parti à la cueillette des champignons, distraction très appréciée des Polonais. Certes, les gens ne se font pas d'illusions. Ils ne croient pas que cela changera grand-chose à la situation politique du pays. Mais ils voient dans ce prix la preuve que le monde ne les a pas oubliés, qu'ils continuent de penser à eux, de partager leurs souffrances et de communier dans la solidarité des idéaux.
Même en France, hein, ce prix Nobel de la paix fait beaucoup causer. Mais comme souvent, difficile de mettre les Français à l'unisson.
Donc je suis heureuse pour lui et il le mérite vraiment. Jamais aucun homme n'a mérité autant que lui ce prix Nobel.
Moi je trouve pas que ça soit juste. Il est un peu trop soutenu par l'Église, il agite un peu trop les masses, alors c'est parfois dangereux. Il reste tombé dans le capitalisme.
Je trouve que c'est très très bien, parce que c'est quelqu'un qui a le courage de ses opinions. Et si tout le monde avait le courage de s'opposer au totalitarisme de droite, de gauche, ça irait déjà beaucoup mieux au niveau de la paix.
Moi je trouve que c'est normal, ils se battent pour avoir la paix pour les ouvriers en Pologne.
Je m'en tape complètement, ça ne me concerne pas.
Bah, je trouve ça étonnant quand même. Il n'a pas fait grand chose pour la paix. Hein.
Ce qui me touche plus, c'est les réalités. Il y a des tas de gens qui meurent dans des guerres partout dans le monde. Les actes positifs m'intéressent plus que les prix Nobel.
C'est normal, parce que même hors politique, c'est un homme qui se sacrifie déjà pour son peuple. Et puis, que je sache, il n'a jamais fait la guerre, lui. Je connais des gens qui ont eu des prix Nobel de la paix, qui ont fait la guerre et à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays. Alors qu'à ma connaissance, Valéza, on l'a combattu, mais lui n'a jamais combattu.
Vous avez reconnu Eurythmics en 1983 avec son tube Sweet Dreams.
1983, on de la traconte sur Europe 1.
Le 9 novembre 1983, à Amsterdam, aux Pays-Bas, le PDG d'Heineken, Freddy Heineken, est enlevé devant le siège de son entreprise.
Il était 19h hier soir quand Freddy Heineken est sorti du gigantesque immeuble qui arbore son nom dans le centre d'Amsterdam. Son chauffeur, Ab Doderer, l'attendait au volant de sa somptueuse limousine blindée. Ce qui s'est passé alors, on le sait grâce au témoignage de deux employés de la brasserie et d'un chauffeur de taxi. Trois hommes masqués ont surgi. L'un a aveuglé les deux employés d'un jet de gaz lacrymogène. Les deux autres ont fait monter Freddy Heineken dans un fourgon Renault orange, puis le chauffeur venu au secours de son patron. Le taxi, témoin de la scène, a alors averti la police par radiotéléphone et il a reçu l'ordre de suivre les ravisseurs. La poursuite n'a guère duré que 5 minutes. Le fourgon des bandits a soudain stoppé. L'un des gangsters est descendu armé d'un pistolet. Il a intimé l'ordre au chauffeur de taxi et à sa passagère de se coucher sur le plancher de leur voiture et de rester là. C'est alors un agent de ville de passage par hasard qui a vu la suite. Les gangsters et leurs deux prisonniers ont laissé là le fourgon et se sont engouffrés dans une GS blanche qui les attendait. C'est à ce moment qu'on perd leurs traces en dépit des barrages immédiatement dressés dans toute l'agglomération. Jusqu'à présent, aucune demande de rançon n'a été formulée. Quant au fourgon Renault, eh bien il s'agissait d'un véhicule de location loué à Rotterdam sous un faux nom, bien évidemment.
Freddy Heineken est l'un des hommes les plus riches des Pays-Bas. C'est un milliardaire, apparemment sans ennemis. Il ne faisait pas de politique, mais on apprend qu'il se baladait dans une voiture blindée. Côté enquête, la piste du fourgon abandonné ne donne rien. Il a été loué sous un faux blaze. Les ravisseurs ne font pour l'instant aucune demande de rançon.
La personnalité des ravisseurs commence en effet à se préciser. D'abord, à quelques paroles qu'a laissé échapper l'un d'eux quand M. Heineken a crié « Aidez-moi » au moment du rapt, les employés de la brasserie ont cru reconnaître l'accent néerlandais d'Amsterdam. Second élément qui fait penser à des malfaiteurs locaux, leur fourgon a emprunté sans hésiter un passage réservé aux bicyclettes. Or, les plots qui en interdisaient normalement le passage aux voitures avaient été démontés il y a très peu de temps. Il fallait donc soit le savoir, soit l'avoir fait soi-même. Autre chose, un troisième élément laisse penser que les trois hommes masqués de cagoule qui ont enlevé M. Heineken sont des gangsters chevronnés. Dans leur fuite, en effet, quand au moment de quitter leur fourgon pour emprunter la GS, ils se sont aperçus qu'un taxi les avait suivis, ils ont été dérangés dans leur plan et ils ont oublié deux sacs de sport où les policiers, on l'a appris ce midi seulement, ont trouvé un étui à lunettes vides, mais surtout deux mitraillettes de fabrication israélienne, des armes de professionnels du crime.
24 heures après l'enlèvement de M. Heineken et de son chauffeur, les policiers reçoivent une lettre de revendication.
Ce qui semble certain, en tout cas, c'est que pour avoir déposé cette lettre à La Haye, c'est-à-dire à 50 km d'Amsterdam, les ravisseurs avaient pu franchir très rapidement le filet tendu autour de la ville quelques minutes seulement après le rapt. Dès lors, tout est possible quant au lieu de détention de M. Hennequin et de son chauffeur. Pourquoi pas la Belgique même, puisqu'Interpol a été alerté. Il faut savoir en effet que, par la route, on passe d'un pays à l'autre en observant seulement un panneau de ralentissement.
La police néerlandaise négocie, bien sûr, dans le plus grand secret. Et 15 jours plus tard, on apprend qu'une rançon de 35 millions de florins néerlandais a été payée.
Lundi à 3h, des petites coupures en dollars, en marques, en francs et en florins, empilées dans un sac, furent jetées dans un trou sur un viaduc d'autoroute près d'Utrecht. Les gangsters étaient en dessous du viaduc sur une route de traverse. C'était bien joué. Par contre, M. Hennequin et M. Dodereur ne furent pas délivrés aussitôt comme il était convenu. Alors la police a craint le pire.
La police néerlandaise lance alors un coup de filet. 19 personnes sont arrêtées. Ce ne sont pas des truands. Des petites frappes et une famille qui tient une menuiserie en faillite fermée depuis un mois.
Quand les policiers ont fait irruption dans ce hangar hier matin, il paraissait totalement vide. Après un coup d'œil circulaire, les enquêteurs allaient refermer le portail lorsque l'un d'eux crut percevoir le son d'une radio. Ça provenait de derrière une sorte de cloison dissimulée par un tas de matériaux. À y regarder de plus près, on s'aperçut alors qu'une porte secrète permettait d'accéder à deux petites cellules séparées par un couloir. Deux petites cellules soigneusement calfeutrées. Freddy Hennequin et son chauffeur étaient là, clignant des yeux à la lueur des torches. Chacun dans sa cellule, ils étaient enchaînés au mur par un poignet. Un matelas posé à même le sol, un seau hygiénique, quelques livres, le poste de radio et un jeu de cartes représentaient tout leur confort. Les deux otages avaient dû enfiler un pyjama il y a 21 jours lors de leur rapt et ils portaient toujours le même. Ils pouvaient se parler une fois par jour dans le petit couloir et ils pouvaient commander ce qu'ils voulaient manger. Un médecin amené par la police constata aussitôt que Freddy Hennequin et Abdoderer se portaient bien malgré le froid des derniers jours et l'absence de chauffage. Alors il leur donna le feu vert. On ne les détiendrait pas un jour de plus, même à l'hôpital. Freddy Hennequin a donc invité son chauffeur et sa famille à venir se reposer dans sa propriété. Pour lui, Abdoderer, en effet, ça ne peut plus être un employé, c'est un compagnon de captivité. Amsterdam, Jean-Claude Jeans, Europe 1.
1983, Ondelat raconte sur Europe 1.
Le 27 septembre 1983, le chanteur Tino Rossi meurt à l'âge de 76 ans.
Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée.
À en juger par le micro-trottoir de Caroline Coldefy sur Europe 1, Tino Rossi a bien marqué toute une génération, mais celle d'avant, ou même celle d'encore avant. Apparemment, c'était aussi un sacré beau gosse.
Tino Rossi, je suis comme les dames d'un certain âge. Ah, quand j'avais 15 ans, je connaissais tout le répertoire de Tino Rossi. Je chantais toutes les chansons de Tino Rossi et j'ai dansé sur le plus vieux tango du monde.
Ah, mais il faisait courir les foules, madame. Il faisait courir les foules, les jeunes, les moins jeunes, les vieux.
Il était très beau garçon. Je l'ai connu quand il chantait à l'ABC. Et je l'ai connu quand il était séduisant et qu'il a débuté au Casino de Paris avec Varna. Il me plaisait beaucoup. Il chantait divinement bien. C'était ma belle jeunesse.
C'était un chanteur que je n'aimais pas. Alors, je pense qu'il était bien pour une certaine génération, mais pour la mienne, sans doute qu'il était un petit peu vieux, une image de marque assez vieille.
C'était un chanteur qui est très gentil. Enfin, il m'a rappelé ma jeunesse, si vous voulez.
Est-ce que ça vous touche, cette mort?
Non.
C'est pas quelqu'un que vous aimiez?
Non.
Non, c'était un grand personnage, mais
c'est
tout.
C'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup?
Moi non, mais je me souviens quand j'étais petite, ma mère était folle de lui, elle ne parlait que de lui.
Pour des millions de Français, Tino Rossi est l'interprète du célèbre « Petit Papa Noël » sorti en 1946. En France, c'est la chanson la plus vendue de l'histoire du disque.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière.
Tino Rossi, c'est une voix, un accent, corse, d'Ajaccio. Là-bas, avant tout, c'est l'enfant du pays qu'on pleure.
Ben pour nous, Ajacciens, c'est l'enfant du pays et nous sommes très touchés par sa disparition. C'est quelqu'un de grand qui s'en va. Ça m'arrive souvent de l'imiter. Pour moi, Tino Rossi, c'était beaucoup. C'était un type sympa, très chic, très serviable, très gentil. Ça me fait beaucoup de peine. J'ai des cassettes, des disques à la maison et je continuerai je veux garder le meilleur souvenir de Tino.
C'était un grand homme et je pense qu'il sera irremplaçable, premièrement par sa voix et en plus par sa gentillesse aussi pour Ajaccio. Parce qu'il a beaucoup fait aussi pour Ajaccio, ne fût-ce que par ses chansons. Et même sa façon de parler, parce qu'il n'y avait pas une fois où, quand il parlait à la télé, qu'il ne parlait pas d'Ajaccio. Tout le monde est très triste à Ajaccio. Nous pleurons le chanteur, naturellement, mais nous pleurons surtout l'enfant d'Ajaccio qu'il était. Tino Rossi était un grand chanteur français, c'était un grand chanteur corse également. C'était notre plus bel ambassadeur dans le monde entier. Quand on parle de la Corse, on dit Napoléon, mais on dit aussi Tino Rossi. Et ce n'est pas une galéjade.
Tino Rossi était un artiste avec de solides amitiés dans le milieu, comme Mireille Mathieu, qui est très émue sur Europe 1, au micro de Michel Drucker.
Mireille, qui est comme tous les artistes français, encore sous le choc de la nouvelle de la disparition de Tino, car Tino, les artistes le connaissaient, bien sûr, elle aimait.
Oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis très, très, très émue, parce qu'en plus, j'étais très amie avec Tino, puis Lily et Laurent. Je dois dire qu'ils ont été admirables tous les deux. Et je viens de quitter Lily. Et c'est évidemment, je peux dire que Tino nous a quittés, il ne nous a pas quittés parce qu'il est toujours présent avec nous. Il ne voudrait pas qu'on soit triste. Alors, je ne sais que dire.
Très bien, lui dit.
Tino Rossi a marqué beaucoup de chanteurs, comme Enrico Macias, qui reconnaît une filiation importante avec le chanteur ajaccien.
La mort de Tino Rossi est un événement très douloureux. Il se trouve qu'il y a une coïncidence terrible, c'est que le premier spectacle que j'ai vu quand j'étais tout enfant, c'est celui de Tino Rossi. Quand je suis né dans la chanson, il y a eu beaucoup de rapprochements avec mon maître, Tino Rossi, parce que c'est un chanteur méditerranéen. Et on a même dit que j'étais le Tino Rossi des Pieds Noirs.
Yves Montand, lui, a peu connu Tino Rossi. Mais au cours de l'émission de Michel Drucker, il souligne l'aura de Tino Rossi. L'aura sur la jante féminine. Et il en connaît un rayon sur le sujet Montand.
Il a apporté aux gens et aux femmes, aux hommes, mais en particulier aux femmes, c'est vrai, une telle tendresse, une telle part de rêverie qui peut faire sourire certaines jeunes filles qui sont certainement dans le studio aujourd'hui. Mais je voudrais leur dire à ces jeunes filles qui sont là, que j'espère nombreuses et ravissantes, que leur mère et leur grand-mère ont rêvé, ont été folles de Tino Rossi. Et non pas seulement qu'en France, mais dans toute l'Europe.
Le chanteur de charme, Tino Rossi, a connu 50 ans de succès. Et pour Charles Aznavour, sa longévité ne s'explique que par son talent.
Tino n'avait aucune concurrence. Tino sera toujours un personnage unique. Et c'est la providence pour un auteur ou un compositeur. Vous voyez, à une époque, on disait « Ah, Tino ne chante pas » et puis... Je me souviens de Piaf qui m'a dit un jour, Edith m'a dit, tu prends un disque de n'importe quel chanteur, chantant une chanson que Tino chante et tu vois tout de suite la différence. Et elle avait parfaitement raison, on voyait tout de suite la différence. C'est dans cette merveilleuse simplicité qu'il sortait une interprétation étonnante.
Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Jour et nuit, et partout je ne pense qu'à lui, car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras.
C'était évidemment un extrait du plus beau tango du monde, la chanson culte de Tino Rossi. Combien de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, ont fantasmé sur cette chanson. Moi, dans mon tango, j'embarque Guillaume Maury et Julien Pichenet. et Guillaume Vinceau qui envoie la musique. La suite de notre visite privée de l'année 1983 dans le quatrième épisode dont Delattre raconte une année.
Retrouvez On Delattre raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.